Donc, c'est une méditation plutôt aujourd'hui sur la Pâque. Et je voudrais commencer dans Ésaïe, chapitre 53. Je vais lire tout le chapitre, faire des petits commentaires ici et là. Ésaïe, chapitre 53, qui est bien sûr une prophétie. Donc, les gens qui ne sont pas connaisseurs de la Bible, voilà, ils pensent que la Bible est comme tous les livres. Quelqu'un qui s'est assis, a écrit tout le livre, puis ils allé trouver un éditeur, et puis voilà, et puis à la date, tamponné là, là c'est 1977, voilà. Et ce n'est pas le cas. Donc il y a du temps. Donc quand on parle de, dans le Coran, on parle de Moïse, le frère de Myriam et de Aaron, donc ce Moïse-là qui est l'oncle de Jésus, eh bien, on ne comprend pas qu'il y a 1400 ans qui séparent Moïse de Jésus. Parce qu'il n'y a pas de référence de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps est très important. Ce n'était pas possible que Moïse soit l'oncle de Jésus. Il était trop vieux déjà, 1400 ans. Il n'était pas de la tribu de Judas. Il était de Lévi. Et puis, Myriam, la sœur de Moïse, est morte dans le désert et n'est jamais allée en Israël. Et Marie, Myriam, la maman de Jésus, eh bien, elle a donné naissance à Bethléem. N'est-ce pas? Donc, des raisons importantes de comprendre ce livre. Okay? Donc, Ésaïe a écrit quelques 700 ans avant Jésus-Christ. C'est longtemps. Il n'y a pas possibilité que Ésaïe a connu lui-même ce qui allait se passer. C'est Dieu qui lui a donné une prophétie qu'il a inscrite. Et cette prophétie ne s'était pas trompée. OK? Ésaïe chapitre 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est-à-dire dans la prophétie, eh bien, qui, à l'époque de Jésus, comprenait que Dieu agissait à travers toutes ces choses-là? Même aujourd'hui, on a du mal à comprendre que Dieu a pu permettre toutes ces choses-là. Qu'il a pu permettre que son fils soit assassiné sur une croix. Ce qui fait trébucher beaucoup de monde. Ah, mais non, ça, c'est pas l'amour. Vous voyez? Les gens n'ont pas cru que c'était l'action de l'Éternel. Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Donc, on va revoir ce mot, le rejeton, plus tard, ce matin, OK? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus était un homme, physiquement, un homme banal. Il était comme tous ses contemporains. Il n'était pas un blond parmi une population de blancs. OK? Il était comme tout le monde. Banal. Verset 3. Méprisé. Donc, méprisé par les chefs et abandonné. Abandonné par ses disciples. Abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Donc, je tire par le mot habitué qu'on parle de cette souffrance morale à travers toute sa vie, l'incompréhension et l'attitude envers lui qui n'avait pas de péché. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous c'est Israël, nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. C'était un nul pour eux, ou un malfaiteur, un trompeur. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos souffrances morales, le péché. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Tant mieux pour lui. Il avait mérité cette punition sur la croix. dans la bouche des hauts prêtres, etc. N'est-ce pas? Mais, et donc le mais là, c'est au contraire. Il n'était pas frappé de Dieu dans une malédiction. Il était frappé de Dieu. Oui, il a été blessé pour nos péchés. C'est pour cela que Jésus était frappé, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, je me repose sur le mot la paix. Par la crucifixion de Jésus, nous avons la paix avec Dieu. C'est Romains chapitre, je pense, 8, verset 1. Okay? Si on a la paix, on se repose. On doit se reposer. La confiance en Jésus, c'est cette confiance qui nous fait reposer. On ne fait plus d'œuvres. On ne fait plus de sacrifices. On ne fait rien parce que Jésus a tout fait. Avez-vous cru en Jésus-Christ? Avez-vous confiance en lui, qu'il est mort sur la croix pour vos péchés? C'est très important. Nous étions, au verset 6, tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Sa propre voie, ça veut dire qu'on est égoïste, nous. Il y a deux voies. Il y a la grande voie de chacun, et puis il y a la voie de Jésus. Soit on suivra la voie de Jésus, ou bien on suivra l'autre, qui mène à la perdition. Et il dit dans le texte, chacun suivait sa propre voie. Et c'est le cas de nous tous, jusqu'à ce que on rencontre Jésus. On se convertit et on se met sur sa voie. Et l'Éternel, donc je reprends le verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » L'iniquité de nous tous. L'iniquité, c'est notre mot pour les péchés, les transgressions. Et c'est de nous tous. Christ est mort, non pas seulement pour nos péchés, dit Jean, dans 1 Jean chapitre 2 et verset 2, mais aussi pour les péchés du monde entier. Il était, donc l'Éternel, son Père, a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau. Donc déjà, on le qualifie de brebis, après de l'agneau. Et on va revoir cette image plus tard. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? La personne qui a cru ça au moment. Par la suite, il y a beaucoup de monde, et même nous, à travers les siècles, il y a certainement des millions de gens qui ont cru à cet fait. Mais sur le champ, sur le coup, non. Personne n'a cru. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Donc il y avait deux criminels crucifiés à ses côtés. Son tombeau avec le riche Joseph d'Arimathée, qui lui a prêté une tombe. Prêté. Pourquoi prêté? C'est parce qu'il n'est pas resté. Il n'a pris que 3 jours de séjour dans la tombe. Quoi qu'il n'eût point commis de violence, donc Jésus était sans péché, et qu'il n'y a eu point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ça termine la crucifixion. Il était enseveli. Et pour les gens normaux, c'est la fin de l'histoire. Peut-être on va raconter 3 siècles plus tard, leur tombe était renversé par les malfaiteurs et donc il fallait remettre le tombe à sa place ou quelque chose comme ça. Mais normalement, quand on meurt, c'est la fin de l'histoire, il n'y a plus de biographie. Mais dans la prophétie, ça ne s'arrête pas là. Il y a le mot « après ». Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Là, on parle de la résurrection. Et non pas simplement sa propre résurrection, mais sa postérité en parlant des convertis, les gens qui allaient recevoir la vie éternelle en croyant en son nom. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc, on parle de l'Église qui allait avoir naissance le jour de la Pentecôte, qui sera ou qui était depuis animée donc par le Saint-Esprit. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il ne dit pas qu'il va justifier tout le monde, parce qu'il y a plein de monde, comme j'ai dit hier. On a peut-être parlé à 60 ou 80 personnes, mais ce n'est pas 60 ou 80 personnes qui ont cru à ce message. Il justifiera qui? Il justifiera ceux qui croient en son nom. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, puisqu'il s'est livré lui-même à la mort. Donc il y a beaucoup de monde qui dit, comment Dieu a pu faire ça à son fils? Mais dans ce prophétie, bien que c'est l'Éternel qui agit, eh bien c'est aussi c'est le Seigneur Jésus qui agit. Il s'est livré pour nos péchés. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, mais le fils nous a aimé aussi et il s'est livré à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Pardonne-leur, n'est-ce pas? Il a dit sur la croix. Je vais vous lire Jean 1, 29, vous n'êtes pas obligé de chercher. Donc c'est Jean après le baptême de Jésus. Le lendemain, il vit Jésus. C'est après que Jésus est revenu de la tentation. Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'aime bien ce verset. Il le partage souvent avec les musulmans. Il apprécie ce verset. Il comprend. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'était le sacrifice ultime. Depuis Adam et Ève, il y a eu des sacrifices, hein, sans fin. Mais tout ça donnait l'image pour un seul sacrifice ultime, celui de l'agneau de Dieu. Puis dans Jean chapitre 19, verset 30, il a achevé le salut. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli !» Et baissant la tête, il rendit l'esprit. « Tout est accompli !» Ce mot-là, « accompli », c'est le mot qui dit « fini, exécuté, conclu, complet, accompli, bien sûr, et terminé !» Il n'y a rien de plus à faire. Rien plus à ajouter. Il n'y a rien qui manque. Pouf. Fermez la porte. C'est fini. Tout pour ôter le péché du monde. 100%. On ne peut pas ajouter 100% et 1. On ne peut pas dire 99%. Tout est accompli. Tout est achevé. C'est terminé. Rien à faire en plus. Tout le nécessaire, tout le possible était fait. Vous n'avez rien que vous reposez par la foi à l'œuvre, dans l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Amen. Il est mort, il est ressuscité. Donc, je vais lire Romains chapitre 8, verset 31 à 35, juste la première partie de verset 35. Parce que Jésus, il est ressuscité et maintenant, il intercède pour nous. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, Dieu, l'ultime, le plus grand, le plus intelligent, le plus fort et puissant de l'univers est pour nous, qui peut, avec une certaine efficacité, être contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il donnera. Il ne va pas nous vendre le salut. Il va le donner. Il ne va pas nous vendre les bénédictions. Il va les donner. Il donnera toutes choses avec lui. Donc le mot avec lui, en Christ. En Christ, nous avons toutes les bénédictions. C'est ça qui est marqué dans l'épître aux Éphésiens. Qui accusera les élus de Dieu? Ça veut dire, les accusera pour qu'ils soient condamnés. Le diable, il est bien pour accuser. Il n'est pas vraiment question ici du diable. Personne ne peut nous accuser dans le sens de nous condamner. Pourquoi? Eh bien, il le dit. C'est Christ. Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu, donc son Père, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et la réponse est personne et rien. Personne et rien pour nous séparer de l'amour de Dieu. Et puis Jésus nous a envoyé son Saint-Esprit pour nous accompagner ici-bas. Donc je vais lire maintenant Actes chapitre 1 à partir du verset 8. Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc on a eu ce verset pour mémoriser il y a quelques semaines. À Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et juste aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, excusez-moi, et une nuée le dérobait à leurs yeux. Il est parti. Il est mort, il est ressuscité. Il a passé à peu près 7 semaines avec les disciples et puis il est parti. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu, qui était enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ça veut dire qu'il va revenir. Quand on partage le repas du Seigneur, on continue avec une certaine fréquence, jusqu'à ce qu'il revienne. Le fait de participer dans le repas du Seigneur dit que nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ qui est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est parti, qu'il prépare notre demeure éternelle actuellement, il intercède pour nous, et il va revenir. Ça fait partie de la doctrine. Il va revenir. Mais pour l'instant, il est au droit ou à la droite de son Père. Apocalypse chapitre 5. Je vais lire quelques versets dans Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 1. Et on va voir plusieurs choses là. Apocalypse chapitre 5 verset 1. Puis je vis dans la main de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Moi, je vous fais entrer dans la situation-là. C'est le lieu céleste. C'est le trône de Dieu. Celui qui est assis sur le trône, c'est le Père. Et le Père, il a dans sa main un petit livre qui a 7 sceaux. Et donc, c'est une vision que Jean a eue dans l'Apocalypse. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais parce que... excusez-moi. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. » Je vous avais dit dans Ésaïe 53, on va aller revoir le mot « rejeton ». Le rejeton de David a vaincu quoi? Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Il a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau. J'ai vu un agneau au milieu du trône qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc ça parle du Saint-Esprit là. Et l'agneau, c'est Jésus. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Donc il faut avoir la vision, donc il a le trône de Dieu. Et en haut, assis, c'est le Père. Et au milieu du trône, c'est l'agneau. Et au milieu de l'agneau, c'est les yeux qui sont partout dans la terre. C'est la Trinité qui est en vue ici. Donc ils se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, pour notre Dieu. Et ils régneront, il dit, sur la terre. » Ça, c'est intéressant qu'il n'a pas dit « ils régneront dans les cieux ». Ils régneront sur la terre. Ça parle du millénium. Jésus va revenir. Pour faire quoi? Pour régner sur la terre. Et nous régnerons sur la terre avec lui. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, donc le Père, et à l'agneau, donc l'agneau qui, dans l'image, comprend aussi le Saint-Esprit, donc le Fils et le Saint-Esprit, soit la louange, l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Vous savez, quand on parle avec les gens, il est important souvent de les rappeler que avant que Dieu a fait notre création, il avait déjà conçu l'idée du salut. Un agneau immolé, dès avant la fondation du monde. Mais il fallait le faire dans l'histoire. Et c'est ça, la Pâque. Quand Dieu est devenu homme pour mourir sur une croix et ressusciter pour établir la bonne nouvelle, l'évangile par lequel les gens peuvent être sauvés. Et donc, on a déjà vu ça, mais je répète, en 1 Timothée 2:5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Dieu qui s'est fait homme. Jésus, il est homme. Oui, mais il est Dieu. C'est le seul qui a fait le lien, qui s'est lui-même, s'est donné lui-même en rançon pour tous. Je vais lire maintenant dans Hébreux chapitre 7, verset 25, et après on va partager le repas du Seigneur. Car, donc, Hébreux chapitre 7, et je lis à partir du verset 21, je focalise sur le fait que Christ est l'intercesseur. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs par serment, Jésus l'est devenu sacrificateur, donc intercesseur, avec serment par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré, et il ne repentira pas, il ne changera pas son avis. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Jésus est par cela même le garant. » Qui est le garant de votre salut? Si vous avez cru en Jésus-Christ, qu'est-ce qui garantit que vous serez sauvé? Le garant, Jésus. C'est lui qui est le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, le Seigneur Jésus, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Pas en partie, pas un petit peu, mais entièrement, parfaitement, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, ça, il nous convenait, nous avons besoin de ça. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, parce qu'il est Dieu. Donc les cieux, tous les cieux, mais c'est Dieu qui est en haut de tout ça. Plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, entre guillemets, humains, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour le propre péché, ensuite pour le péché du peuple. Car ceci, il a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi, établit le Fils de Dieu, qui est parfait pour l'éternité. Okay? Donc, moi, maintenant, je voudrais qu'on partage le repas du Seigneur en pensant à ce que Jésus a fait, cet salut parfait qu'il a obtenu pour nous. Donc, si vous allez participer, je vous demande de vous lever. On ne va pas passer longtemps, on va simplement partager le repas. On en a parlé de ce temps-là. Donc, le pain, bien sûr, représente son corps. Ce n'est pas son corps, il ne faut pas penser autrement. Donc, on passe le pain qui représente son corps. Après, on va passer la coupe. Jésus a dit de prendre ce pain en mémoire de lui. Donc, cette coupe représente le sang que Jésus a versé sur la croix. Vous savez, la Bible dit clairement, sans l'infusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait que le Christ meure et qu'il donne son sang pour couvrir tous les péchés du monde. Donc cette coupe représente ce que Jésus a fait sur la croix par son sang. Vous pouvez prendre place et donner les verres à Sophie. Je vais lire, donc, en attendant, donc, 1 Pierre chapitre 2. Parce que le salut est achevé. On l'a reçu, on est croyant. Mais maintenant, que faire? Donc, par la suite du salut, par reconnaissance envers notre Sauveur, nous voulons avoir une vie conséquente, une vie qui corresponde à cette nouvelle profession de foi. Et donc, je lis dans 1 Pierre chapitre 2, verset 21, c'est à cela que vous avez été appelés, donc il parlait des souffrances auparavant, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Donc, Jésus a donné un exemple, il est notre modèle. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point, il ne s'est point trouvé de fraude. On a beaucoup de Ésaïe chapitre 53 dans cette petite paragraphe. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Nous, les chrétiens, nous vivions une vie chrétienne. C'est logique. Mais des fois, ce n'est pas si clair que ça, mais c'est logique. Ça devrait être comme ça. Que nous, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Toujours Ésaïe 53. Mais maintenant, vous êtes retournés. On s'est converti pour revenir vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. C'est ça. Il a tout fait pour qu'on puisse vivre ici-bas pour lui et puis par la suite passer l'éternité en sa présence. Donc voilà, la résurrection. Tout à l'heure, on avait une citation ou une prière à propos de la résurrection, non pas seulement de Jésus, mais sa résurrection nous garantit notre résurrection. Donc voilà une journée de la Pâque. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.